Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Le parc a l'air un peu à l'abandon, avec de très grands arbres. Au fond du parc, il y a la maison, une vieille maison grise et qui est délabrée, mais qui a un certain charme. Elle va très bien avec le parc. Florent lui dit: la maison est délicieuse, et le parc aussi. Harold lui dit: un peu délabré.
Oui, mais ça lui donne un certain charme supplémentaire.
Harold lui dit: faisons tout de même attention. Elle peut être pas si abandonnée que ça. Ils arrivent devant la maison. La façade est bien délabrée. Des moulures cassées, fissures. Il y a, entre les pierres de la maison, de l'herbe, volets cassés, fermés ou ouverts, vitres brisées. Les marches du perron sont décelées ou cassées. Laurent lui dit:
vos amis habitent une maison plutôt en mauvais état. Un jour ou l'autre, elle va s'effondrer. Et puis, elle va être... les gens du village vont la démolir pour construire une HLM.
Harold verbe à la porte d'entrée. Elle est à moitié ouverte. Il la pousse pour entrer. Poussière, toile d'araignée, détritus à terre, tapisserie arrachée, taches d'humidité, plus de meubles que des choses cassées. Ça sent l'humidité la poussière et des odeurs pas très agréables. Florent dit,
l'odeur d'une maison abandonnée me donne la nausée, ça me dégoûte. Pas vous ?
Harold lui dit, moi aussi.
Florent lui dit, il n'y a rien à voir, partons.
Harold lui dit, non, nous avons été séquestrés ici. Je sais que c'est ici. Je veux savoir pourquoi. Cherchons. Florent soupire. Et il visite la maison de la corbe au grenier. Tout est délabré. Sol. Les pièces sont vides. Par quelques objets abandonnés et cassés. Beaucoup de taches d'humidité, de fissures et de toiles d'araignée. Il ne trouve rien. Florent dit,
on voit que c'était une très belle maison. Les pièces ont une belle proportion.
Car même à l'intérieur des placards. Dans un placard, il trouve une vieille robe noire, toute simple. Dans un autre placard, il y a une veste de costume gris. Elle ne semble pas être très vieille. Elle a une forme jeune. Il fouille dans les poches de la veste et trouve une photographie représentant des jeunes gens, très jeunes, de pied, en costume, dans la rue. L'un est blond, l'autre châtain. La photo a l'air usée. Harold dit.
Il me semble que je connais ces deux jeunes gens.
Et qui est-ce?
Je me souviens plus.
Il prend la photo et la met dans sa poche. Et il continue à chercher. Il continue à chercher, ne trouve rien. Ils sont même allés dans la cave de la maison. Là, Harold ne se souvient pas. Il a l'impression de connaître cette cave. Il n'en a aucun souvenir.
Je ne sais pas si c'est celle-là.
Avant de s'en aller, il s'en retourne et regarde encore une fois le hall d'entrée. Quand, tout à coup, ils entendent un grand bruit, comme un cri. Ça leur fait peur. Vite, ils sortent de la maison. Cours dans le parc, vont vers le mur. Là, en vitesse, Florent fait la courte échelle. Comme tout à l'heure. Et une fois sorti de la propriété, il court à toute vitesse vers la voiture. Ils y rentrent. Et Florent met la voiture en route. Harold lui dit, vous voyez qu'elle était habitée?
Oui, mais par qui?
Harold lui dit, on n'a pas cherché. On n'a pas cherché. À savoir. Mais c'était peut-être ceux qui nous avaient pris. Je demande bien ce que ça peut être. Ils entrent chez Florent. Florent le mène à son salon pour boire un bourbon, pour se remettre. Ils sont assis dans des fauteuils, l'un face de l'autre. Florent lui dit,
cela ne prouve pas que c'était un de vos agresseurs. Puis, on ne sait pas qui était la maison.
Harold lui dit, oui, je sais, mais ce bruit, ce cri.
Harold lui dit, peut-être une bête.
Non, c'était bien humain.
Un fou.
Oui, peut-être. Mais nous aurions dû chercher à savoir.
Harold lui dit, c'est vous qui avez donné l'ordre de fuir. N'y pensons plus.
Harold fait, je me demande. Ce que cache cette maison. Et si nous y retournions?
Florent lui dit, certainement pas. Nous sommes très bien ici. Détendez-vous. Si vous le désirez, je peux vous faire un massage.
Harold lui fait, non, merci. Ça ira très bien.
Florent lui dit, vous êtes vraiment très séduisant. Très séduisant.
Je vous remercie. vous aussi. Harold est très beau et trouve beau Florent, mais il n'est pas attiré par lui. Ça arrive souvent que l'on trouve une personne belle et qui ne vous attire pas. L'on ne sait pas pourquoi. Florent se penche vers Harold, qui a les jambes écartées et une relevée, posée sur l'accoudoir du fauteuil. Florent va vers une chaussette, ses chaussettes. Il pousse sa main sur la chaussette. Il la descend. Elle montre un mollet mince et délicat. Il prend le mollet à la main et le lui caresse. Et l'autre main monte la cuisse. Monte, monte. Harold ne dit rien. Florent continue. Il est en haut de la cuisse. Continue à monter. Il a chaud, très chaud. Il sent le caleçon sous le pantalon. Le haut du caleçon. Il avance. Il semble toucher l'objet de son désir. D'un geste, Harold quitte la jambe de l'accoudoir, ce qui fait retirer la main à Florent. Et Harold remonte sa chaussette et dit :
Il faut que je m'en aille.
Déjà ?
Oui, j'ai affaire.
Il se lève. Florent, triste aussi, il lui dit : Bon, je vais vous raccompagner.
Harold lui dit : Si ça vous gêne, je peux prendre un taxi.
Non, allons-y.
Et il va le mener vers la sortie de la maison.
Florent est triste. Mais il se dit qu'Harold est bien. Il n'a pas fait de réflexion et son geste a été naturel, ni violent, ni dégoûté. Une fois sorti de la maison, il le mène à sa voiture, le fait entrer dedans et met la voiture en route. Et direction Paris.
Harold lui dit : En tout cas, merci pour l'après-midi.
Florent lui dit : Ce n'était rien.
Harold lui dit : Oh, mais si, vous avez été très chic. On peut faire confiance à une personne comme vous.
Florent est content qu'il lui dise ça après ce qui s'est passé.
Lui faire confiance. Il en a les larmes aux yeux.
Harold le voit et lui demande :
Qu'est-ce que vous avez ?
Rien. Tu es le plus brave homme qui soit.
Harold se sourit.
Florent ?
Sent la douceur de sa cuisse sous son pantalon. Il se dit qu'il ne pourra plus jamais le toucher. Ça lui fait un mal terrible. Plus mal que s'il avait eu une correction. Oui, parce que la douleur d'une correction ne dure qu'un moment. Celle de perdre à jamais l'objet de son désir, d'où toute une vie, plaisir d'amour, etc. Il est très triste. Il se dit que la bonté, la gentillesse peut être plus terrible que le dégoût, la haine, la violence. Parce que l'on ne peut rien et qu'il est impossible de désobéir à quelqu'un de bon. Que s'il refuse une chose gentiment, on ne peut que s'incliner. Mais si une personne dit violemment une chose ou est violent, on peut être violent et forcé sa volonté, assouvir son plaisir. On peut le toucher de force et se battre avec lui et avoir un contact physique. On peut assouvir inconsciemment par la violence sa douceur. Là, que faire? Harold a dit non d'une façon si douce et en silence, sans reproche, qu'on ne peut que s'incliner. Le trajet du retour est d'une tristesse, disons horrible, parce qu'il pense à tout ça. Florent se dit, je suis trop civilisé. C'est ça qui tue tous mes désirs. Trop poli, trop sensible à la bonté. Si j'étais resté primaire, plus vrai, je serais plus heureux. Je ferais n'importe quoi pour assouvir mes désirs. Rien ne pourrait m'arrêter. Je vivrais comme un homme. Il se dirait surhomme. Que rien ne pourrait empêcher d'aller de l'avant, ni la morale, ni la société. Nietzsche a raison. Pour que l'homme puisse s'épanouir, il ne doit pas avoir d'entrave entre lui et ses désirs. Ce qu'il est. Aller au-delà de la morale de la société. Et en conduisant, il voit à côté de lui la belle jambe d'Harold. Ça lui donne envie de vomir. Harold lui demande « Qu'avez-vous ?»
Il lui dit « Rien, un peu triste. »
Harold lui demande « De quoi ? Nous avons passé l'après-midi ensemble. » « Oui, ce n'était pas très drôle. Visiter une maison comme celle-là. Mais c'était un petit privilège. Elle a un mystère. »
Laurent lui dit « Nous sommes entourés de mystères. Les gens qui nous entourent, la vie. »
Harold lui dit « Je ne suis pas mystérieux. Je suis moi. » Laurent lui dit
« Mais... » Vous me cachez comme un mystère. Comme une chose que vous savez et que vous ne direz jamais. »
Harold lui dit, « Nous avons tous un petit quelque chose, mais ce n'est rien. Que des choses que l'on garde pour ne pas gêner l'amitié. »
Florence se dit que l'un de ses secrets, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Se dit Carole, est très civilisé comme lui et peut-être a envie de lui mais qui n'ose pas. Ils arrivent à Paris.
Je vous mène à votre immeuble ?
Oui, merci. Il le mène. Harold fait arrêter la voiture devant l'immeuble. Harold lui dit : Merci pour tout.
Ils se tendent la main. Florent lui demande, nous le revoyons quand ?
Il lui dit, je ne sais pas, je suis très pris, je vous téléphonerai, allez.
Et il sort de voiture et entre chez lui. Florent met sa voiture en route.
Il se dit, après ce qui s'est passé, il voudra certainement plus me revoir. J'aurais pas dû faire ce geste. Il a le corps serré. Pleure d'avoir perdu Harold. Et le geste qu'il a eu le fait regretter d'autres gestes qu'il ne pourra jamais. Il ressent encore cette peau délicate, son caleçon et les flormants suprêmes. Il a envie de mourir et se dit qu'il n'est pas comme les autres. C'est terrible de ne pas être comme les autres, de désirer ce que les autres refusent de vous donner. Et que ça les dégoûte. Mais pourquoi est-il comme ça? Pourquoi sa mère l'a-t-elle fait comme ça? Pourquoi? À cause de ça, il souffrira toute sa vie.
Il ne pourra jamais. Assouvir ses désirs et ses amours. Il passera toute sa vie occupé à occuper sa solitude. Et son drame, en remplissant sa vie de décorations, de fêtes, de vêtements, d'argent jeté à la fenêtre. Pourquoi lui ne peut-il pas vivre comme les autres? En arrivant chez lui, il va dans sa chambre. Et là, il s'allonge sur son lit. Pense à tout ça. Ce qui s'est passé cet après-midi. Il veut quelque chose de positif à tout ça. Brigitte est chez elle. Elle a la grippe ou quelque chose comme ça. Au fond de son lit, elle baille. Elle broie du noir. Elle a 40. Le téléphone sonne. Elle décroche. Le téléphone était sur la table de nuit.
Allô?
C'est moi, Harold.
Elle fait... Oh, c'est vous! Comme je suis heureuse de vous entendre. Vous êtes arrivé bientôt.
Il lui dit... Oui, comme vous voyez... Le retour a été plus vite que prévu. Je vous appelle pour vous donner de nos nouvelles. Elle lui dit.
Quant à moi, ça va comme je peux. J'ai 40.
Il lui dit, je suis navré.
Elle lui dit, merci.
Elle se dit qu'elle doit compter pour lui. La preuve, il lui a téléphoné. Il se dit, je fais ma BA en lui téléphonant. J'espère que je ne le regretterai pas. Elle lui demande,
hey, qu'avez-vous fait?
Il lui dit, nous sommes promenés en voiture.
Seul?
Oui.
Où?
Il lui dit, nous avons repris la route que nous avons prise la nuit. Où nous avons été enlevés. J'ai voulu revoir la maison. Ça a été difficile de la retrouver, mais nous y sommes arrivés. La maison est abandonnée, mais avec du mystère, elle fait
« Oh !»
Et il lui raconte tout. Après, elle lui dit
« Vous avez failli vous faire tuer, peut-être ?» Il faut plus y aller.
Il lui dit, pourtant j'aurais bien aimé
connaître ce mystère. Elle lui dit, il ne vaut peut-être pas. Il lui demande, alors, nous ne saurons jamais la cause de notre enlèvement et qui nous a enlevés la nuit dernière. Elle lui dit, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que c'était une farce. Ou qu'on voulait un autre argent. Mais ça n'a pas marché. Ils ont renoncé. Il lui demande, pourquoi nous ont-ils libérés? Elle lui dit, si c'était pour une raison, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de personne. Il lui dit, peut-être. Elle demande, nous revoyons quand? Il lui dit, je sais pas, je suis très pris. Elle lui dit, vous pourriez me téléphoner? Il lui dit, c'est justement ce que je fais. Il se demande comment il va faire pour se débarrasser de cette fille. Elle lui fait, bien, je crois que je m'en vais vous laisser vous reposer, elle lui fait. Mais ça ne me fatigue pas du tout, il lui dit. La fatigue vient après. Il se dit, moi, je suis fatigué de lui parler. Elle lui dit, je crois que je vais vous laisser. Adieu et remontez-vous, vite. Merci. Et il raccroche. Elle se dit, il m'a téléphoné. Peut-être qu'il tient à moi. T'es un beau garçon et le bras droit du PDG. Le lendemain, Harold, dans son bureau, téléphone à Judith pour lui dire ce qui lui est arrivé. Elle lui fait, c'est louche, il faut la surveiller. Amenez-moi ces photos que je voie. Bien, je vous les amène. Il décroche, sort du bureau et va au bureau de Judith qui se trouve un étage au plus bas. Une fois dans son bureau, il lui montre les photographies. Elle les regarde bien et lui dit, ce sont vraiment de très vieilles photos qui ont bien vieilli. Je ne vois pas très bien. Je ne peux pas affirmer, mais il me semble reconnaître ces jeunes gens. Harold lui demande, et qui est-ce ? Elle lui dit, il me semble que c'est le jeune Bosch, le plus jeune, et un de ses amis, un dénommé, je crois, Gilles Trem. Il me semble que sa mère doit être en affaire avec nous. Ce qui fait que si c'est eux, nous avons les membres des deux familles qui sont en affaire avec le groupe et qui ont séquestré le vice-président de ce groupe. C'est grave, très grave. On veut peut-être prendre la place du président. De lui demander un service peut-être. Le président risque peut-être sa vie. Ces gens, comme je l'ai déjà dit, sont dangereux.
et lui dit « Il ne faut plus les voir. Il faut s'en débarrasser. » Elle lui dit « Non, bien au contraire. Il faudra c'est continuer à les voir, car plus nous serons près d'eux, plus nous n'aurons pas à aller trop de l'avant, trop loin. Ils n'osent pas. Regardez avec vous. Ils n'ont pas osé enlever la fille à cause de vous. Ils savent qui vous êtes. Surtout vis-à-vis de nous. » Il lui demande. « Et la fille ?» Elle lui dit « Elle doit être avec eux. Il ne faut pas la lâcher, celle-là. » Il lui dit « C'est plutôt elle qui ne me lâche pas. Jouez votre séduction. » Il lui fait « Bien. » Et ce jeune homme, Florent, elle lui dit « Ce n'est qu'un personnage de passage dans notre histoire. Continuez à voir la fille, parce qu'elle doit être importante. Elle doit être le fil entre les autres. Bien, elle lui rend la photo. Tenez, c'est très sérieux. Vous allez faire une chose. Comme elle est très usée, vous allez me la faire traiter pour qu'on puisse mieux la voir. Prends la photo et quitte le bureau. Quoique ça l'ennuie beaucoup, parce que cette fille ne lui dit rien, et que la caresser non plus, surtout la caresse de la jambe lui a réveillé d'autres rêves, et que l'effleurement de son intimité le rend malade. Pour obéir à Judith, il téléphone tous les soirs à Brigitte pour lui demander de ses nouvelles. Elle va mieux et est heureuse qu'il lui téléphone tous les jours. Elle se dit, c'est la preuve qu'il m'aime. Et un jour, elle est complètement rétablie, retourne à son travail. C'est elle qui lui téléphone et pour lui dire qu'elle aimerait bien passer la soirée avec lui. Elle est obligée d'accepter. Service commandé oblige. Donc, ils sortent souvent ensemble. Vont au restaurant, concert, théâtre, cinéma, soirée, etc. Elle est très heureuse. Pourtant, du point de vue sentimental, rien n'avance. Part de France, ni de recherche à aller un peu plus loin. Elle ne s'en rend pas compte et croit qu'il l'aime. Un soir, il la raccompagne. Elle lui demande « Si vous voulez boire un verre, un dernier verre ?» Il lui dit énervé « Oui, je veux bien. » Elle croit qu'il est heureux de finir la soirée avec elle. Lui aimerait mieux être dans son lit. Elle le fait entrer chez elle et le mène au salon. Il lui dit, c'est très joli chez vous. Elle lui dit, vous n'êtes jamais venu? Il lui dit, je ne pense pas. Elle lui fait, ah, asseyez-vous. Et il s'assoit dans un fauteuil. Vous voulez boire quelque chose? Il lui dit, oui, un Pernod. Elle va le lui chercher.
revient avec deux verres et une bouteille.
Fais le service. Tenez, merci.
Et
s'assois en face de lui. Après avoir bu en silence, elle lui demande « Vous avez toujours vécu seul ?» Et il dit « Oui, toujours. » Elle lui demande encore « Et ça ne vous disait rien de vivre avec une personne que vous aimeriez ?» Il lui dit « Je ne sais pas. Je suis assez indépendant. » Elle se dit « Ça ne va pas être facile. » Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.